merci de nous accueillir ici. Madame la députée maire, merci pour la belle organisation de cette journée. Messieurs les parlementaires, merci également pour votre soutien. Après l'exposé de Mme Fournier, un terme disant, je crois qu'il n'y a plus de questions à se poser sur l'utilité d'une action concertée de l'État sous toutes ses formes, c'est-à-dire des parlementaires, du gouvernement, mais aussi de tous ceux qui constituent les forces vives de la nation, qui sont représentés ce matin par l'intermédiaire de tous les présidents et représentants d'associations, pour comprendre qu'il est indispensable d'avoir une action efficace et déterminée dans un domaine aussi dramatique. Je connais bien l'exposé qu'elle vous a fait est un exposé très mesuré. Certains des exemples qu'elle a choisis sont tragiques, mais il y en a d'autres qui sont encore plus horribles et que l'on n'a pas envie de raconter en public. Par conséquent, nous sommes confrontés à des situations extrêmement douloureuses, et ceux d'entre vous qui représentent les parents, qui représentent les familles, vous savez très bien quelles sont les situations qui sont faites parfois dans notre pays aux enfants. Alors vous évoquiez tout à l'heure le sort qui est réservé dans notre pays aux enfants, que ce soit dans le domaine de la guerre, que ce soit dans le domaine du travail également. Tout cela est extrêmement douloureux, mais je crois que pour l'instant et pour l'heure, dans le cadre de la journée qui nous intéresse aujourd'hui, nous devons nous en tenir à notre préoccupation première, c'est-à-dire une façon de réagir à la situation qui est réservée aux enfants dans les sectes, dans notre pays. Nous ne devons pas être égoïstes, nous ne devons pas nous fermer les yeux sur ce qui se passe ailleurs dans le monde, mais la tâche est déjà tellement lourde et tellement complexe ici que nous devons dans un premier temps nous focaliser sur ces questions-là. Sachant tout le dévouement, toute l'attention que les membres de la mission parlementaire d'études sur les sectes portent à ces questions, il va de soi que le gouvernement ne peut pas être le moins du monde en retrait sur ces questions. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que nous participions nombreux ce matin à ce colloque pour pouvoir répondre de la façon la plus concrète qui soit aux questions que vous posez. Pour admettre également devant vous les insuffisances de l'action de l'État. Monsieur le Président, vous avez mis le doigt sur cette action qui n'est peut-être pas suffisamment coordonnée, qui n'est peut-être pas suffisamment efficace, et certains d'entre vous ont posé des questions sur la volonté qui pouvait réellement exister de mettre en application une législation qui globalement est assez complète. Sur le point de la volonté, je crois qu'on peut affirmer que tout le monde est animé de cette volonté, parce que le sujet est tellement dramatique que personne ne peut réagir de façon neutre et totalement inintéressée devant la question. En revanche, ce qui est difficile, c'est de coordonner l'ensemble des services. La MIVILUT, à ce titre, a, je crois, un rôle à jouer, parce que la MIVILUT comporte trois éléments. Beaucoup d'entre vous le savent, mais je le répète pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas. Il y a une mission permanente, qui est le secrétariat général, animé par Mme Katz, magistrat de l'ordre judiciaire, et qui est secondé pour ce faire par une dizaine de représentants des principaux départements ministériels de notre pays, l'éducation nationale, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé, le ministère des Finances, etc., etc. Nous travaillons à partir des éléments qui nous reviennent des départements ministériels auxquels appartiennent ces conseillers, mais aussi à partir des éléments qui nous reviennent de la province, c'est-à-dire du fond de notre pays. J'ai souhaité relancer l'activité des cellules départementales de vigilance qui, dans chaque département, doivent associer sous l'autorité du préfet et du procureur de la République l'ensemble des services de l'État, l'ensemble des services déconcentrés, l'ensemble des services des collectivités territoriales et aussi les représentants du monde associatif. Car c'est ainsi que peuvent remonter à nous les vrais problèmes qui se posent dans notre pays. À Paris, nous n'avons qu'une vision imparfaite et incomplète. Et je tiens absolument que les cellules départementales de vigilance soient, comme leur nom l'indique, particulièrement vigilantes sur l'ensemble des questions du phénomène sectaire, et tout particulièrement sur celles qui touchent les enfants, car elles sont quand même plus douloureuses que les autres, car ce sont celles qui s'appliquent à ceux de nos concitoyens qui sont les plus faibles et les plus fragiles, et à ce titre, elles sont franchement révoltantes. À côté de cette mission permanente, la MIVILUT dispose d'un conseil de pilotage, d'un comité de pilotage opérationnel qui associe quasiment tous les départements ministériels. Et là, nous avons la possibilité faire passer le message aux différents ministères de ce qui vous préoccupe, de ce qui préoccupe les parlementaires qui ne manquent pas de m'en faire part à l'occasion des visites que je prends ou à l'occasion des réunions institutionnelles que nous avons. Et les départements ministériels de leur côté doivent nous faire connaître les mesures qu'ils proposent, les dispositions qu'ils peuvent adopter pour faire évoluer les dispositifs qui existent et faire en sorte que nous répondions davantage à votre attente, davantage à l'attente des personnes qui essaient de sortir de ces organisations sectaires et de ceux qui les défendent. Et puis le troisième élément dont je dispose, c'est le conseil d'orientation. Alors quand je dis que j'en dispose, c'est un bien grand mot, car en fait, c'est le conseil d'orientation à la disposition duquel je suis placé pour s'assurer deux choses. La première, c'est que nous faisons notre travail et tout notre travail, c'est-à-dire aussi bien la mission de vigilance, qui est importante et essentielle parce qu'elle se place en amont, que la mission de lutte contre les dérives sectaires. Et cette notion de lutte qui n'apparaissait pas nécessairement dans les anciennes appellations, notamment dans celle de l'observatoire, est essentielle. Parce que être vigilant, savoir, tirer des bilans, c'est bien. Mais ne pas agir, ne pas lutter, ne pas mettre fin à ce que nous constatons, c'est extrêmement grave. Et par conséquent, nous avons ce devoir de porter assistance à personne en péril. Vous l'évoquiez tout à l'heure, monsieur le député. Et ce devoir, vous êtes là pour nous le rappeler en permanence au sein du conseil d'orientation. Mais vous êtes là aussi au sein de ce conseil d'orientation, et je me réfère notamment à la présence de membres éminents de la société civile, des médecins, des chercheurs, des juristes, des universitaires, qui nous rappellent en permanence que nous sommes là, et c'est notre première mission, pour défendre les droits de l'homme. Certains prétendent défendre les droits de l'homme, mais en vérité, ils représentent d'autres organisations et ils se cachent dans cette appellation extrêmement noble pour protéger les actions contre lesquelles précisément nous luttons. La vraie défense de la dignité humaine, la vraie défense des droits de l'homme, elle est du ressort bien entendu du Parlement, elle est du ressort bien entendu du gouvernement. Et à ce titre, l'individu est là pour veiller en permanence à ce qu'il ne soit pas porté atteinte à la dignité de nos concitoyens, à ce qu'il ne soit pas porté atteinte aux libertés essentielles, à la liberté de conscience, à la liberté de penser, à la liberté d'aller. Mais je m'interroge toujours pour savoir où est la liberté de conscience quand il y a un gourou avec une vérité révélée, où est la liberté de penser quand on n'a pas le droit de formuler la moindre critique, et où est la liberté d'aller et venir lorsque, au moment où l'on souhaite quitter une organisation, des pressions extrêmement vives, extrêmement contraignantes, sont exercées sur les personnes à tel point qu'elles refusent de témoigner, à tel point parfois qu'elles sont poussées au suicide. Et je crois que là, la réponse est très claire. La défense des libertés, elle est du côté du Parlement, du gouvernement. Elle est du côté des forces vives de la nation, elle est du côté de tous ceux qui attendent beaucoup de nous. Elle n'est pas du côté de ceux qui se parlent joliment, mais qui en fait n'ont pas d'autre but que d'exercer leur emprise sur ceux qui ne veulent pas voir partir, car ils constituent leur ressource essentielle.
Association écran qui s'appelle le CAP, que Prévensect serait coordinateur de cette journée. Alors nous en sommes très flattés, mais c'est faux. En réalité, nous avons simplement publié sur le site une lettre annonçant, donnant les renseignements pour s'inscrire à cette journée d'études. Donc vous voyez cette petite au point, c'est tout fait. Deuxièmement, je vous écoute avec beaucoup d'attention, et c'est quand même une question qui me travaille, c'est la position du ministère de l'Intérieur sur la question des témoins de Jéhovah. C'est quand même quelque chose qui est grave. Monsieur Bras a rappelé le problème de la transmission concernant les mineurs. Il faut savoir si ma sœur est praticienne hospitalière, responsable d'un service d'urgence, elle a expliqué comment les choses se passaient dans la pratique. Mais dans la pratique, quand vous avez un gamin témoin de Jéhovah hospitalisé en urgence, la responsable du service contacte le procureur de la République pour que soient déclenchées des mesures éducatives pour faire suspendre temporairement l'autorité parentale, la transférer à l'hôpital pour qu'il puisse pratiquer les soins si nécessaire. Or, du point de vue du ministère de l'Intérieur, cela a été écrit, la question de la transfusion sanguine ne constitue pas un trouble à l'ordre public. Donc, qu'est-ce qu'un trouble à l'ordre public si ce type de situation n'est pas en lui-même constitutif d'un trouble à l'ordre public? Deuxièmement, de plus en plus aujourd'hui, nous apprenons que des abus sexuels sur mineurs ont été couverts, étouffés, les plaintes ont été étouffées par des comités d'anciens, hein, qui ont découragé les victimes d'aller porter plainte contre leurs agresseurs qui étaient témoins de Jéhovah. Et cette situation n'est pas simplement franco-française, elle est européenne et mondiale. Hein. Si des actions en justice au niveau américain peuvent causer du tort aux témoins de Jéhovah, c'est sur ce point précis qu'elles porteront probablement. Donc on a deux points massifs. Et pourtant, du côté du ministère de l'Intérieur, on continue à nous dire qu'il n'y a pas de problème de trouble à l'ordre public. Alors, que peut faire aussi bien la Miviludes, qui est en contact direct avec le ministère de l'Intérieur sur cette question, que les députés, membres de votre commission? Je vous remercie.
Ma spécialité sur les témoins de Jéhovah. Si les témoins de Jéhovah s'intéressent beaucoup à moi, je ne sais pas si c'est dans un souci de conquête. Alors, vous évoquez une lettre, en réalité, qui a été adressée au préfet du Puy-de-Dôme et dont j'avais donné connaissance dans une émission de la directement par une affaire sectaire. Aucun. Donc, vous voyez, il n'y a pas un intérêt, si j'ose dire, personnel à agir. C'est la défense des libertés individuelles et collectives, et c'est tout. Et dans le pluralisme politique, parce que pour être beaucoup plus éloignés l'un de l'autre que Georges Fenech et moi sur le plan politique, c'est difficile, sur beaucoup de questions. Or, sur ce combat, il n'y a pas entre nous l'épaisseur d'une feuille ou d'un papier séparé pour exprimer une différence, et c'est très important. Et nous savons nous retrouver sur l'essentiel. J'en reviens donc à cette lettre qui a été adressée par un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur au préfet du Puy-de-Dôme qui consultait son administration pour savoir ce qu'il fallait répondre quant au témoin de Jéhovah, puisque vous savez que ce sera le préfet qui ont à répondre sur l'affaire de l'exonération de la taxe foncière. Ils ne peuvent peut-être exonérer de la taxe foncière qu'un groupe religieux, et à l'exception de tout autre. Et c'est l'astuce des témoins de Jéhovah pour de facto se faire reconnaître comme religieux. Et c'est dans la fameuse réponse que vous évoquez qu'il était indiqué que la transfusion sanguine ne constituait pas une violation, un refus de la transfusion sanguine ne constitue pas une violation de l'ordre public. Le ministre ne s'est jamais exprimé sur ce sujet. Nous avons été reçus, le groupe dont vous avez une partie devant vous, et nous sommes ouverts de nos préoccupations avec le ministre de l'époque, qui était Nicolas Sarkozy, qui nous a dit partager. Et donc, le propos du fonctionnaire en question n'a jamais été confirmé. Le fonctionnaire en question n'est plus en place. Je vous l'ai dit en passant. Vous pouvez peut-être voir une action du groupe parlementaire sur le résultat de notre action. Les abus sexuels. J'ai eu l'occasion de dénoncer à la tribune de l'Assemblée un exemple très précis de pédophilie. Un témoin de Jéhovah pédophile, c'est après tout pourquoi il ne réside pas parmi les témoins de Jéhovah, sauf que plainte n'avait pas été déposée alors que la réalité des faits était connue par d'autres membres du groupe témoins de Jéhovah. C'est-à-dire que délibérément, la vérité avait été dissimulée et soustraite aux autorités étatiques, en particulier à la justice, pour qu'il n'y ait pas de poursuite. Et alors, tenez-vous bien, mais ce n'est pas un accident de parcours. C'est une orientation du témoin de Jéhovah. Et dans les documents, vous voyez, il y a un document du témoin de Jéhovah qui s'appelle « Prenez garde à vous-même », c'est déjà tout un programme, il y a tout le troupeau. Alors, le troupeau, c'est une façon délicate de nommer les autres témoins de Jéhovah, mais ce n'est pas faux, au sens où ce sont des moutons ou quand il y en a un qui est devant, les autres suivent. Et alors, qu'est-ce qui est écrit dans ce document, qui est un document des témoins de Jéhovah? Les anciens sont les autorités sur les témoins de Jéhovah, peuvent apprendre qu'un membre de la congrégation a pris part à une action illégale ou a commis un délit grave. Toutefois, dans de nombreux pays, les lois relatives au culte ne les obligent pas à rapporter les faits ou à en dénoncer l'auteur aux autorités. Lorsque de tels délits constituent une transgression de la loi de Dieu, et on peut peut-être penser que la pédophilie rentre dans ce cadre-là, les anciens doivent s'en occuper et non pas la justice. Parce que si vous traduisez ça jusqu'au bout, c'est surtout pas la justice. Voilà. Donc je reviens, monsieur, à votre question de tout à l'heure. Notre rêve, c'est ce qui respecte la loi et pas les témoins de Jéhovah préconisent de ne pas la respecter. C'est donc un gros danger.
Madame, vous voulez réagir? Vous pouvez vous présenter aussi.
Oui, je suis donc madame Katz, secrétaire générale de la Miviludes et donc magistrat. Et j'ai eu à connaître personnellement le dossier du type dont M. Grard vient de parler. Et le vrai problème qui se pose, c'est un problème de prescription, là encore. Lorsque les jeunes victimes dénoncent, une fois majeure, les faits, la non-dénonciation des faits par ce tribunal parallèle, ces faits-là sont prescrits. Et ça pose un vrai problème de justice, hein, puisque des personnes qui commettent une infraction à un moment donné, cette infraction n'est pas sanctionnée parce que le temps a passé par le fait même de l'emprise exercée sur les jeunes victimes. Hein. Voilà ce que je souhaitais dire. Et enfin, si vous me permettez quelques instants pour répondre à la personne qui a mis en cause tout à l'heure la magistrature, oui, tout système est perfectible et j'entends pas dire que toute la magistrature est parfaite, loin de là. Simplement, j'attire l'attention sur le problème de preuve, là encore, au pénal, qu'il y a à... les investigations sont extrêmement difficiles, notamment dans les mouvements fermés, et obtenir les preuves des infractions est plus dur, je trouve, dans ce domaine que dans tout autre. Évidemment, les anciens adeptes ne souhaitent pas forcément s'adresser à la justice, et comment obtenir les éléments, hein. Et au plan civil, je souhaite également rappeler que le procès civil est la cause des parties, et que, là encore, les parties apportent leurs éléments et le juge tranche. Et il y a également là un déséquilibre entre les parties soutenues par un mouvement avec des avocats très professionnels, qui utilisent tous les moyens de droit mis à leur disposition, ce que je, en tant que magistrat, je ne peux pas critiquer, bien évidemment. Mais en face, il y a souvent des personnes isolées, en souffrance, parfois affaiblies financièrement, et donc il y a un déséquilibre évident entre les parties, ce qui cause, indépendamment de la volonté des magistrats, sûrement un déséquilibre dans la décision judiciaire également. Peut-être est-ce également une piste de réflexion que je soumets en tant que professionnel. Merci.
Bien. Monsieur et madame, il y en a encore.
Oui. Marc Scotteau, défenseur des enfants. C'est juste pour rebondir sur l'intervention de madame Katz. C'est vrai que dans nombre de dossiers, et pas seulement sur les dérives sectaires, mais sur des dossiers de maltraitance ou des choses comme ça, on a du mal à établir des preuves. Et la question de la preuve, pour l'instant, est un obstacle majeur. Et tout à l'heure, vous avez évoqué une piste de travail sur une forme de prévention en amont des preuves. Alors là, vraiment, nous, on est très intéressés aussi. Et pas seulement pour les dérives sectaires. Voilà.
Alors, il y a une dame, on passe à la deuxième partie. Monsieur Daniel Gros-Pollin.
Bonjour, bonjour messieurs. Charles Delporte, de la Télévision. Je vous en prie, important. Il y avait un point important que je voulais signaler concernant la scène de l'Éthéra du Jéhovah, quand on parlait de transfusion sanguine. Et que l'enfant, en effet, et merci bien sûr à la loi, puisqu'il peut être transfusé, mais n'oubliez pas qu'après, cet enfant, trouble à l'ordre public ou pas, cet enfant désire mourir, parce qu'il n'ira pas dans ce paradis terrestre bientôt. Naturellement, les parents ne veulent plus de lui, puisqu'il est mort
spirituellement, donc on dit on ne veut plus de toi. C'est là le plus important et c'est là où il faut vraiment trouver ensemble ces enfants. Alors je ne le dis pas comme ça par hasard, la doctrine est importante. Sans pour cela rentrer dans la doctrine de toutes les sectes, y compris celle des témoins de Jéhovah, elle est très très importante parce que l'enfant, après, a vie, il est abîmé. J'ai eu le cas de plusieurs jeunes gens, quand je fais des informations sur les sectes et je parle bien sûr des témoins de Jéhovah, j'ai eu plusieurs fois des jeunes gens qui se sont levés en disant « Moi, madame, j'ai été transfusée à 6 ans par cette loi et tant mieux, eh bien, j'aurais préféré mourir puisque maintenant, au vu de mes parents, je suis morte et je n'irai pas sur ce paradis. » La manipulation mentale est importante et c'est là où il faut revenir à chaque fois. Mais j'aurai peut-être l'occasion d'en parler. Merci, monsieur.
Magistrat, responsable du CCNM en Anjou. Je voudrais citer deux faits. Un, ou un qui ne se passait pas en Anjou, car je suis rentré au CCNM qu'une fois à la retraite, estimant être lié par l'obligation de réserve. Mais, premier fait, donc, qui se passe à Paris, où je présidais la chambre d'accusation, on l'appelait ainsi, maintenant ça s'appelle la chambre de l'instruction, on lui a brouillé une partie de ses pouvoirs. Alors, toujours est-il que j'ai affaire à deux inculpés, on disait inculpés à ce moment-là, qui avaient laissé leurs deux enfants de 7 et 5 ans mourir de leucémie. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient témoins de Jéhovah et que, selon la formule des parents qui étaient des gens modestes, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Par conséquent, on aimait nos enfants, mais on n'était pas des fanatiques, mais il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Bon. Alors les enfants sont morts, ils ont été traduits devant la cour d'assises, et ils ont été condamnés à des peines de prison. Parce que le cas a semblé, ils ont semblé être de bonne foi malgré leur fanatisme. Le deuxième fait beaucoup plus récent, il y a deux ans, et je crois que ça se perpétue encore, mais je ne peux pas être partout, ça se passe au CHU d'Angers. Dans les services de chirurgie, dans les différents services de chirurgie qui exigent des transfusions. Eh bien, les géovistes amènent un imprimé que leur a fait signer, disant qu'en aucun cas ils ne veulent être transfusés. Et les praticiens, la plupart du temps, ne téléphonent pas au procureur pour avoir le feu vert en cas d'urgence. D'abord, les médecins estiment que l'urgence peut être discutée dans bien des cas. Et deuxièmement, il y a une certaine, je dirais, complaisance des services qui font que il y a notamment la loi Kouchner qui permet au malade de décider de son sort indépendamment des considérations médicales. Si bien que ce que je peux vous dire, je crois que ça se passe ainsi aussi dans les trois grandes villes de l'Ouest, c'est-à-dire Nantes, Rennes et Angers. Le géomiste qui se présente en refusant la transfusion sanguine, eh bien, on n'insiste pas. Et si on demande au procureur, le procureur est très gêné parce qu'il y a un précédent, le tribunal administratif de Lille,